France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Il est 8h30 et c'est maintenant Solae, ce rendez-vous protestant proposé chaque semaine par la Fédération protestante de France. Nous voici au quatrième dimanche de l'Avent, tout près de Noël. C'est un moment évidemment particulier, on n'est plus tout à fait dans l'attente et pas encore dans l'accomplissement. Pour commencer, place à la chronique musicale de François-Xavier Maigre, comme une invitation à avancer doucement vers ce mystère qui vient. Puis nous retrouverons un acteur de la Fédération protestante de France pour nous aider à méditer ce pas à pas vers Noël. Ce matin, Stéphane Arkhipov, aumônier national aux aéroports pour la Fédération protestante de France. Bonjour François-Xavier Maigre.
Bonjour.
Avec ce livre que vous avez écrit, God Bless Rock and Roll, aux éditions Première Partie et qui inspire la manière d'aborder la musique et la foi dans cette série d'émissions d'Avent et de Noël, qu'est-ce que vous aviez envie de laisser au lecteur, François-Xavier ?
Déjà, de transmettre un peu cette passion qui m'anime, cette double passion, à la fois pour la culture rock et pour la foi chrétienne dans ses expressions culturelles. Et peut-être aussi cette idée que, finalement, la foi est une invitation à habiter toutes les dimensions de notre vie, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous fait vibrer. Moi, ça a été à travers le rock, mais pour nos auditeurs, ce sera peut-être à travers d'autres passions, d'autres engagements. Je pense qu'on peut faire une expérience spirituelle dans toutes les dimensions de notre vie.
Alors, nous avons pu vous entendre avec votre groupe dimanche dernier, Clayton Ravine. Ce matin, François-Xavier, vous nous proposez une expérience peut-être un peu plus intime avec un artiste que j'apprécie tout particulièrement, c'est Nick Cave, dont vous allez nous présenter une chanson emblématique, Into My Arms. Mais tout d'abord, pourquoi Nick Cave ?
Nick Cave, j'ai découvert grâce au cinéaste Wim Wenders. Souvenez-vous, c'est peut-être l'une des plus belles scènes des Ailes du Désir, donc un film de 1987 qui nous raconte d'une certaine façon la chute d'un ange. Et il y a cette scène fameuse, donc avec Nick Cave, le chanteur australien, leader des Bad Seeds, les mauvaises graines, interprète une chanson sur l'éternité dans un club berlinois. Celles et ceux d'entre vous, chers auditeurs qui ont vu ce film, s'en souviendront peut-être. La performance intense de Nick Cave incarne d'une certaine façon l'humanité à laquelle aspire l'ange et héros de cette fable mystique d'Amiel. Lors du concert de rock, il retrouve Marion, la trapéziste qui taraude son cœur. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Chez Wim Wenders, c'est comme si le rock, d'une certaine façon, symbolisait l'idée même de vivre, d'être humain, d'éprouver la fragilité de l'existence dans toute sa violence et sa beauté, l'incandescence d'être mortel. Ce rôle secondaire, mais crucial, va comme un gant au chanteur australien dont la prolifique discographie mériterait une série de chroniques à part entière. Alors sa marque, vous me direz, c'est quoi ? Pour moi, c'est peut-être justement cette spiritualité qui affleure à chaque instant, tantôt brûlante, tantôt recueillie.
Oui, ce film, Les Ailes du Désir, et puis Wim Wenders plus largement, je suis fan absolu. Je conseille aussi Perfect Days, un magnifique film de Wim Wenders où la musique, la bande originale est extrêmement intéressante. Mais revenons à Nick Cave et donc cette chanson, Into My Arms, qu'a-t-elle de si particulier ?
C'est une ballade amoureuse, épurée, pleine de recueillement et de douceur. Piano, basse, voix, rien d'autre. Elle est sortie en 1997 et Nick Cave déclare l'avoir écrite au cours d'une cure de désintoxication. Il revenait de l'église en traversant les champs et c'est là que la mélodie lui est venue. De retour dans le centre de soins, il s'installe au vieux piano grinçant. La trame et les accords affleurent aussitôt. Puis il monte au dortoir, s'assied sur son lit et écrit les paroles. Résultat, un joyau intemporel d'une humilité totale où l'amour humain se confond avec la possibilité d'un amour divin. Je vous cite les paroles que je trouve vraiment très belles. Je ne crois pas en un Dieu interventionniste, mais je sais, ma chérie, que toi tu y crois. Mais si c'était le cas, je me mettrais à genoux et je lui demanderais de ne pas intervenir en ce qui te concerne, de ne pas toucher un seul de tes cheveux, de te laisser tel que tu es. Et s'il sentait qu'il devait te guider, alors qu'il te guide dans mes bras, ô Seigneur. Si ce titre m'émeut, c'est parce qu'il est empreint d'écho spirituel. On pense évidemment aux mots de l'évangéliste Luc, « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Plus qu'un formidable hit, c'est une prière pleine de doute et de justesse, une ode au risque de croire, un appel à plonger dans un amour au-delà de l'amour. Pas étonnant que Nick Cave l'ait chanté lors des funérailles de son ami Michael Hutchence, leader d'In Excess, suicidé en 1997. Il ignore alors qu'il lui faudra 25 ans plus tard surmonter celui de son propre fils, Jethro, souffrant de schizophrénie, après avoir déjà enterré un autre fils, Arthur, à la suite d'un accident.
Des tragédies qui vont marquer durablement l'artiste et impacter sa vie et sa musique.
Oui, et d'ailleurs dans un livre au titre Coup de poing que je recommande à vos auditeurs, magnifique. Foi, espérance et carnage, oui, magnifique, Nick Cave raconte tout avec pudeur, avec vérité, comme comment la musique l'a aidé à survivre en le reliant à quelque chose de plus grand. C'est, dit-il à propos de la musique, la forme artistique qui répond le mieux à notre besoin de combler notre manque de Dieu, parce qu'elle permet de nous sentir moins seuls, elle nous connecte spirituellement. Dans cet ouvrage poignant, le leader des Bad Seeds affirme que notre part de rationalité est aussi belle que nécessaire. Mais, dit-il, son caractère inflexible risque souvent de réduire ses petits gestes d'espérance à de simples lubies. Elle nous ferme à l'apaisement que procure l'hypothèse du divin. Et il écrit encore ceci. « Je crois au fond que vivre, c'est ça. Mourir à soi-même et puis renaître. Et parfois, ça se reproduit encore et encore, ce réagencement complexe de soi-même. » Comme si la vie éternelle commençait ici et maintenant, dans le chaos des jours ordinaires, pour déployer encore et encore les ailes du désir.
Eh bien, envolons-nous, Nick Cave, avec Into My Arms.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. If I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms.
Nick Cave, Into My Arms, le choix du jour de François-Xavier Maigre, auteur du livre God Bless Rock'n'Roll. Merci à vous en tout cas de nous ouvrir autrement sur ces artistes, ces chansons depuis ce début de l'Avent dans Solae. On vous retrouve jeudi dans l'émission Noël pour une dernière chronique et un titre qui sonne comme une véritable confession de foi. Mais je n'en dis pas plus. Au revoir François-Xavier. Aujourd'hui, dans Soleil, le rendez-vous protestant, nous recevons un homme dont la vie ressemble à un grand atlas ouvert. Il est né à Madagascar, avec des racines russes, arméniennes, une enfance entre l'Afrique et la France, une carrière dans les hôpitaux publics, puis en coopération internationale. Et puis au cœur de tout cela, une foi profonde, née à l'adolescence, qui n'a jamais cessé de l'accompagner et de l'orienter. C'est Stéphane Arkhipov, qui est aujourd'hui aumônier national protestant aux aéroports, en poste aussi à Orly. Un ministère encore méconnu mais essentiel, là où se croisent chaque jour des milliers de vies, des passagers en transit, des voyageurs en détresse, des salariés, des équipes de sécurité. C'est un lieu de mouvement, mais aussi de vulnérabilité, de solitude parfois, et de rencontres inattendues. Avec lui, nous allons parler de ce parcours singulier, de ce que signifie être porteur d'espérance au cœur d'un aéroport, avant de l'entendre aussi pour un temps de méditation autour d'une parabole qui pourra nous accompagner sur ce chemin de l'avant. Bonjour Stéphane Arkhipov.
Bonjour.
Un homme dont la vie ressemble à un grand atlas ouvert, ça vous parle? On vous l'avait jamais fait de cette façon-là?
Non. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai toujours eu... Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, dans les avions en fait, oui. Dès mon enfance. Et donc c'est quelque chose dont on se défait plus ensuite, hein, quand on a circulé entre les continents tout enfant. Donc ça a été, c'est toujours ma passion en fait, de découvrir les autres cultures, d'autres pays, d'autres peuples, et d'avoir des échanges avec les gens, ici ou ailleurs.
Les ailes du désir d'une certaine façon, très concrètement. Vous me disiez que votre conversion à 14 ans a placé la foi au centre de votre vie. Qu'est-ce qui, à cet âge, s'est révélé à vous ?
Oui, c'est vrai. Donc, j'ai grandi dans une famille protestante qui m'a enseigné la Bible, qui m'a amené à l'église. J'ai suivi l'école du dimanche. Et puis, il y a eu un jour, un âge, vers l'âge de 12-13 ans, où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions personnelles en me disant, en fait, bon, ben, c'est ça, c'est la foi de mes parents, mais pour moi-même, quelle est ma relation avec Dieu ? Comment est-ce que je peux plaire à Dieu, on se rend compte normalement tous qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faudrait aux yeux de Dieu, on est tous pécheurs, et ça j'en avais bien conscience, et je ne savais pas quelle était l'issue. Et puis un jour, en ouvrant mon Nouveau Testament, j'ai découvert cette parole de Jésus, qui dit à un lépreux qui se prosterne devant lui en lui disant « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il lui dit tout simplement « je le veux ». Et cette parole a touché mon cœur, j'ai réalisé l'amour que Dieu avait pour moi personnellement, cette parole je l'ai prise pour moi. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai rencontré Jésus qui a illuminé les pages du Nouveau Testament et de l'Ancien pour moi.
Vous avez été visiteur de prison aussi, je ne vous l'avais pas dit, et aumônier à Fleury-Mérogis, vous continuez d'ailleurs.
Je suis toujours aumônier à la prison de Fleury-Mérogis. Bon, actuellement, je fais plutôt des remplacements parce que mon activité principale
est en aéroport.
S'effectue à l'aéroport d'Orly. Et accessoirement, donc, je fais aussi donc, la fonction d'aumônier national pour les aumôniers d'aéroport protestants. Qui sont peu nombreux, je cumule un petit peu les deux.
Quels sont les défis à relever pour structurer cette branche encore récente de l'aumônerie protestante ?
Eh bien, il s'agit de faire connaître aux gens notre présence et les services qu'on peut rendre, que ce soit pour les églises, qui souvent méconnaissent cette branche de l'aumônerie par rapport aux autres branches qui sont beaucoup plus connues, les prisons, les hôpitaux, les armées. Pour les passagers qui ignorent aussi, moi-même, je savais qu'il y avait des salles de prière dans certains grands aéroports, mais j'avais jamais conçu l'idée qu'il y avait derrière des personnes qui devaient gérer ces salles, donc des prêtres, des pasteurs, des imams, des rabbins, en fonction des situations locales. Et donc, il y a toute une équipe interreligieuse, en l'occurrence, sur les aéroports parisiens, qui accueille dans ces lieux et qui circule également dans les aérogares pour répondre aux questions des passagers. Elles peuvent être spirituelles, mais c'est pas le plus souvent. Mais il y a parfois des contacts très très intéressants, très enrichissants avec des gens qui, vraiment, s'adressent à nous pour des questions spirituelles aussi dans les lieux de prière.
Et comment imaginez-vous l'avenir de l'aumônerie dans ces grands lieux de transit où se croisent en quelque sorte toutes les fragilités du monde ?
Oui, c'est vrai. Les aéroports sont des lieux de fragilité pour les passagers. Et un peu pour l'ensemble de la population. C'est des lieux avec beaucoup de machines, beaucoup de technologies, beaucoup de sollicitations de gauche et de droite.
On va vite.
C'est un lieu où on est souvent pressé. Je m'en suis rendu compte moi-même en tant que passager, encore tout récemment. On arrive à l'aéroport comme si c'était nouveau. Et donc, c'est un lieu où il y a beaucoup de stress et où on rencontre les gens avec... on peut vraiment faire des rencontres très intenses en très peu de temps lorsqu'on se met à leur service.
Oui, c'est peut-être là la clé.
Voilà, c'est cette rencontre qui peut s'opérer parfois sur quelques minutes, parfois sur plusieurs heures, parfois sur plusieurs jours. J'ai eu des cas comme ça.
Dans Solae, nous vous ouvrons la Bible chaque dimanche ou presque. Nous allons reparler aussi avec la Bible, finalement, de votre ministère d'aumônier aux aéroports. Pour le rendez-vous avec la parole ce matin, vous avez choisi de nous faire entendre la parabole dite du bon samaritain dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Nous l'écoutons avec la voix de Lydie Jean-Théodore.
Un spécialiste des Écritures intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment le comprends-tu ?» Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, « tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus, « et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait. » Le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même,
un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va, et toi aussi, fais de même. »
Stéphane Arkhipov, c'est une histoire racontée par Jésus qui est restée finalement dans la mémoire collective.
Effectivement, j'ai choisi une histoire qui est tellement connue qu'elle a même donné naissance à une expression proverbiale, se comporter comme le bon samaritain. Ouais. Et c'est une histoire qui a une morale incontestable, hein, puisqu'elle nous invite à manifester l'amour de Dieu en aimant notre prochain de manière inconditionnelle et désintéressée. Ce qui m'interpelle dans ce récit, c'est la manière dont Luc l'introduit, qui est tout sauf candide et doucereuse, qui est même assez provocatrice, à mon avis. Dans les versets qui précèdent immédiatement, Jésus s'est exclamé « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Et voilà justement qu'arrive quelqu'un de très sage, très intelligent, très pieux a priori, puisqu'il est docteur de la loi, donc spécialiste en théologie. Et la question qu'il pose à Jésus est tout sauf anodine. Il ne s'agit pas d'un point de doctrine mineur, d'une question comme d'autres l'ont fait sur le divorce, les impôts ou un obscur sujet sur la fin des temps. Non, c'est une question qui est véritablement essentielle. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Cela va au cœur de notre foi. Que faut-il croire et pratiquer si l'on veut plaire à Dieu?
À première vue, Stéphane, on va dans le bon sens avec cette manière d'aborder les choses. C'est une question essentielle, comme vous le soulignez, et en même temps, je ne vous sens pas totalement emballé.
Oui, ce qui est triste, c'est que cette question si belle, elle est posée ici dans une mauvaise intention. Ce qui motive ce docteur de la loi, ce n'est pas de savoir comment assurer son salut, c'est de mettre Jésus à l'épreuve, comme le dit Luc. Autrement dit, de le prendre en défaut, de le piéger par ses propres paroles, de le mettre en contradiction avec lui-même, ou pire encore, avec la loi de Dieu, la Torah. Jésus ne se laisse pas prendre à ce piège et il lui retourne la question, puisqu'il s'agit d'un spécialiste de la loi, il le renvoie vers les Écritures. « Toi, qui es docteur de la loi, que vois-tu dans les Écritures? Qui lis-tu ?» Contraint de répondre à sa propre question, le docteur de la loi va donner la bonne réponse. Il reconnaît que ce qui est fondamental, ce n'est pas le respect de tel ou tel rite, tel ou tel point de doctrine, telle ou telle prescription religieuse. Non, si l'on veut plaire à Dieu, l'essence même de la foi, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même.
Et Jésus semble l'approuver, et donc la conversation aurait pu se stopper là.
Oui, et le docteur de la loi, qui n'a pas pu prendre Jésus en défaut, il se passe qu'il est piqué au vif. Il va, entre guillemets, chercher à se justifier, ce qui est une expression piquante quand on y pense, et en relançant le débat sur la question de l'amour du prochain. Car après tout, c'est bien gentil de parler d'amour du prochain, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Concrètement, comment ça se traduit? Où est-ce que ça commence et surtout, où est-ce que ça finit? Est-ce que je dois donner tout mon argent aux mendiants que je croise dans le métro? Est-ce que je dois nourrir et ramener à la maison tous les sans-abri de Paris ou de Jérusalem? Mon prochain, qui est-ce en pratique? Et là, la réponse de Jésus, elle va être cinglante. Il prend l'exemple de ce malheureux tombé aux mains des brigands et laissé pour mort au bord du chemin. Par hasard, entre guillemets, 2 hommes très religieux vont passer par là. Un sacrificateur, puis un lévite, donc 2 hommes de foi, consacrée à Dieu et dont la vie était entièrement dédiée à la pratique de la religion. Malheureusement, ces deux-là, ils ne vont pas trouver le temps, ou peut-être le courage, de s'arrêter pour secourir le blessé. Et voilà qu'arrive un Samaritain, c'est-à-dire aux yeux des Juifs de l'époque, un mécréant. Et lui, il va prendre le risque de s'arrêter, car après tout, il ne sait pas à qui il a affaire ou si les brigands sont encore là. Il va donner de son temps et de ses moyens pour prendre soin d'un inconnu. Et avant de partir le lendemain, il ouvre encore sa bourse et promet de revenir pour payer le complément si nécessaire.
Mmh. Tout cela nous donne à réfléchir et j'imagine que cette parabole aussi fait écho à votre ministère d'aumônier d'aéroport.
Oui, même si nous n'avons pas la prétention de nous égaler au bon samaritain, je vois quand même de vraies ressemblances dans la manière de concevoir notre service. En effet, les pasteurs et aumôniers des autres branches, donc hôpitaux, prisons, armées, ont des missions qui sont en lien constant avec la pratique de la foi, avec les entretiens spirituels, l'organisation de cultes, de célébrations diverses. Si je prends l'exemple que je connais le mieux, celui des prisons, lorsqu'on est appelé, c'est toujours pour s'adresser à des gens qui ont demandé à parler à un pasteur ou qui veulent assister à un culte. Le ministère d'aumônier d'aéroport, lui, s'exerce souvent de manière très différente. Pour commencer, il y a le fait que nous sommes au service de tous, croyants ou incroyants, chrétiens, musulmans, bouddhistes. Nous répondons à tous ceux qui se présentent dans nos permanences et nous cherchons à les aider sans nous préoccuper de leurs convictions religieuses. Mais en plus, il y a le fait que presque tous ceux que nous croisons dans l'aéroport, presque 100 000 passagers par jour, rien qu'à Orly,
oui, ça fait du monde,
ne sont que de passage. Et comme je dis souvent à ceux qui me questionnent sur notre travail, les passagers ne font que passer, les personnels ils sont là pour travailler, et les uns comme les autres ont rarement le temps ou l'idée de venir assister à un culte ou à une étude biblique, comme on le fait dans nos églises.
Forcément.
Et comme en plus les chrétiens, et en particulier les protestants, n'ont pas l'obligation de prier à heure fixe, et que les personnels aéroportuaires, eux, travaillent le plus souvent en horaire décalé, la nuit, le jour, le week-end, il est très difficile de trouver des moments qui soient pertinents pour des rassemblements collectifs. C'est pourquoi notre ministère s'exerce principalement de manière individuelle, soit en tête-à-tête, autour d'un café, soit le plus souvent au gré des rencontres effectuées en circulant dans les aérogares. Le hasard, donc, entre guillemets, joue un grand rôle dans notre ministère. Et c'est quelque chose qui peut être parfois très exaltant, quand on fait une rencontre particulièrement émouvante ou gratifiante parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir pu venir en aide à quelqu'un, mais qui peut aussi parfois être très frustrante les jours où on est simplement à la disposition des gens et qu'il ne se passe rien qui sorte de l'ordinaire. Et l'ordinaire des aumôniers d'aéroport, si l'on pratique ce que mes prédécesseurs ont appelé la pastorale des petits pas, c'est en général d'aider les passagers à trouver tel endroit, tel service, tel parking, telle porte d'embarquement, à leur venir en aide quand ils sont désorientés, à accompagner une personne âgée qui a besoin d'être guidée vers sa destination, à réconforter quelqu'un qui vient de vivre un incident typique du milieu aéroportuaire, avion manqué, difficulté d'enregistrement, vol retardé, papier perdu, un sac oublié quelque part, un enfant qui a échappé à ses parents. Notre avantage, par rapport aux autres employés de l'aéroport, c'est que non seulement nous pouvons aller partout, ou presque, mais aussi que nous sommes, en général, disponibles, libres d'accompagner les gens aussi loin et aussi longtemps que nécessaire. Et nous disposons donc du bien le plus précieux, le temps, que nous pouvons consacrer librement au service de telle ou telle personne qui traverse un moment de stress ou parfois de véritable crise. C'est d'abord le cas pour les passagers, et on n'imagine pas, comme on le disait tout à l'heure, à quel point l'aéroport peut être un environnement stressant, parfois même anxiogène pour ceux qui n'y viennent que rarement. C'est vrai aussi pour les employés de l'aéroport ou des compagnies aériennes qui sont soumis à de fortes exigences d'efficacité, de ponctualité, de sécurité, et qui eux aussi peuvent vivre des situations difficiles, professionnellement ou sur le plan personnel. Et enfin, c'est vrai aussi pour toutes ces figures que l'on aperçoit régulièrement, en marge du flux des passagers, ces nombreux sans-abri qui cherchent refuge dans les aérogares et qui constituent un peu les seuls résidents permanents de cette grande ville qu'est l'aéroport. Quelques mots échangés, un sourire, une salutation à quelqu'un que l'on connaît par son nom, dont on prend des nouvelles, cela peut représenter beaucoup dans une journée pour ceux qui vivent dans une forme d'anonymat et de désocialisation.
Peut-on parler d'un ministère de bienveillance ?
Certainement, un ministère de bienveillance à forte dimension humaine, mais qui, en apparence, n'a pas un fort contenu religieux ni institutionnalisé. C'est pour cela que l'analogie avec le bon samaritain revient souvent dans mon esprit, parce que la plupart de nos interactions sont brèves, liées au hasard des rencontres, et donnent rarement lieu à de grands débats théologiques. Néanmoins, ces rencontres peuvent être aussi très intenses sur le plan émotionnel, d'autant que les gens s'ouvrent plus facilement dans le cadre d'une relation qu'ils savent qui ne sera pas durable, a priori, et qui s'effectue de manière totalement fortuite et désintéressée d'un côté comme de l'autre. C'est particulièrement vrai dans ce temps de Noël, qui est une période d'affluence dans les aéroports, où des milliers et des milliers de gens passent quotidiennement devant nous, qui voyagent pour toutes sortes de raisons, parfois heureuses, parfois plus tristes, au milieu de cette grande agitation qui caractérise les réveillons. Et derrière chacun de ces visages, celui de ce jeune homme qui court pour attraper un avion, de cette vieille dame qui regarde le tableau d'un air désespéré, de cette hôtesse qui se prépare à embarquer alors que l'agent de ménage lui termine sa journée de travail, il y a quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un d'unique, avec qui nous aurons peut-être eu la chance d'échanger quelques mots ou juste un sourire, une salutation. Reconnaître quelqu'un comme un être humain, c'est déjà énorme. Alors, même si parfois je ressens un peu de frustration par rapport au désir légitime de témoigner plus directement de l'Évangile, comme le font les pasteurs, je trouve un réconfort dans l'idée qu'aux yeux de Jésus, et c'est le sens de cette parabole, aimer son prochain, c'est déjà manifester l'amour de Dieu par nos actes, comme ce bon samaritain, et qu'en ce sens, aimer, c'est témoigner.
Eh bien, merci Stéphane Arkhipov. C'est une occasion de mieux entrevoir ce ministère particulier d'aumônier aux aéroports. On aura certainement l'occasion de vous réentendre et d'en rediscuter dans Solae. Très joyeux Noël à vous, à votre famille et puis à tous les voyageurs qui croiseront votre chemin cette semaine en particulier. Et puisque l'on a parlé de pays, de continents, de déplacements, alors on se quitte avec une chanson en lingala et français idéale pour célébrer Noël, Bontama ya Yesu.
Noele, 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 Bontama ya Yesu.
Un sauveur nous est né, c'est Noël. On fête la naissance de Jésus.
Noele. Noele, Noele, Bontama ya Yesu. Noele, 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 Bontama ya Yesu.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et Bruno Mourlan à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2 à 10h dans Présence protestante, c'est la rediffusion du documentaire de Luther aux Luthériens, Naissance d'une réforme, dans la collection Histoire vivante du protestantisme. N'oubliez pas notre rendez-vous de Noël exceptionnel, jeudi matin, 9h30, avec une ultime chronique musicale de François-Xavier Maigre, et mon invité sera Elisabeth Valbaume, de la Fédération de l'entraide protestante. Sur France Culture, dans quelques instants, les informations de 9h, et puis derrière, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Je vous souhaite un très très bon dernier dimanche de l'Avent, à chacune et à chacun.
La paix sur la terre, c'est Noël. Tout le village se donne la main.
Noëlé, 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 Bontama ya Yesu. Noëlé, 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 Bontama.